suis tellement dans le rush que j'ai oublié d'écrire une blague d'intro pour l'émission. Du coup, hey, c'est les Oscars. Vous imaginez si c'était un autre prénom? J'ai vraiment rien du tout là. Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Hier soir, c'était les Oscars, ça y est, enfin la fin de cette saison des cérémonies. Alors, qui a remporté le plus de prix? Qui est reparti à la maison bredouille? Et est-ce que j'avais raison dans mes pronostics? On décrypte ça ensemble. Dans la version audio, un français qui adapte au cinéma Watch Dogs et dans la version vidéo, une autre cérémonie, les Razzies, pour parler du pire du cinéma américain. Il y aura aussi la question du public et j'ai vu Imaginary en salle. J'aurais mieux fait de me péter une jambe au lieu d'y aller. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, n'hésite pas à vous abonner aux deux, que ce soit sur YouTube avec la cloche, mais aussi sur Spotify ou sur iTunes. Vous connaissez la musique. Normalement, le lundi, il y a le micro d'Andrew, mais j'ai pas eu le temps avec la grosse émission de vendredi. Merci pour l'accueil que vous lui avez réservé d'ailleurs. Andrew sera de retour dans l'émission de lundi prochain et en plus, c'est le retour des bistros d'Andrew. On vous a préparé des trucs plutôt chambés. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec le gros sujet du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
Connaissez-vous les cérémonies de remise de prix? Oui, et ben c'est tant mieux parce que c'est fini. Ça fait des mois que Hollywood et tous les pays du monde organisent des cérémonies de remise de prix pour récompenser les films sortis l'année dernière et enfin les Oscars viennent marquer la fin. Alors c'est pas tout à fait la fin avec les Oscars parce qu'il y en a toujours 2-3 mais on symbolise quand même le truc avec les Oscars parce que bah c'est la cérémonie la plus importante quoi, c'est-à-dire c'est celle qui débarque et qui dit c'est bon, j'ai remis les prix finaux, merci, bonsoir, on dégage. C'est pas les Césars qui vont conclure la saison des cérémonies, est-ce que les Césars, ils ont Chris Rock qui se fait gifler par Will Smith? Non, au César, on a des militants écolos. C'est pas la même gifle. Les Oscars, c'est une cérémonie de prix remis par l'Academy of Motion Pictures, Art and Science, un collège de votants réunissant plus de 8000 personnes et qui s'est déroulé donc hier soir au Dolby Theater de Los Angeles. Une cérémonie d'ailleurs sous haute sécurité, ça avait été annoncé par Deadline que de nombreux manifestants pro-cause palestinienne allaient se rendre autour du tapis des Oscars pour faire du bruit et alerter sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Je sais pas comment ça s'est passé. Parce que je vous aurais bien dit « Oh, c'était fou comme cérémonie !» Mais en fait, je l'ai pas encore vu. En fait, je fais le même dispositif que ce que j'avais fait au Golden Globes il y a 2 mois, à savoir que je tourne tout ce qui concerne pas les Oscars en avance, je le monte, ensuite je regarde les Oscars, ensuite je tourne la partie des Oscars, je l'ajoute au montage, et vous avez une émission quelques heures à peine après la fin des Oscars. Parce que oui, si vous voulez une émission qui parle longuement des Oscars, bah il faut regarder le pire podcast cinéma. Premier sur l'info. Tout à fait. Donc là, je vous parle, il est 16h42, je suis déjà à la bourre, moi, dis donc. Mais ce qui va suivre a été enregistré post-23h après avoir regardé l'intégralité de la cérémonie. Vous excuserez donc ma gueule de déterré et mes cernes de la taille du Brésil. En vrai, je vais être éclaté sous Red Bull, je vais être en pleine forme. Je le sais, je le sens, je vais être en pleine forme. Ah, et à chaque prix remis, je vous donnerai aussi le pronostic que moi, j'avais fait. Pronostic que j'avais donné donc dans l'émission du 24 janvier, je crois. Allez vérifier parce que sinon, les gens, ils disent « Oui, tu donnes tes pronostics, mais en fait, tu triches. » Non, non, non. Je les ai même postés sur Instagram avant la cérémonie. Suivez-moi sur Instagram, encore une fois. Vous aurez des exclus, j'ai envie de vous dire. Bon, on y va ? Et Victor du futur, c'était comment les Oscars ? Eh ben, cette cérémonie, c'était... attendu. Voilà, je pense qu'on peut la décrire comme ça, une cérémonie attendue. Les Oscars de 2024 ne seront pas les cérémonies de la grosse surprise. En tout cas, si vous avez suivi un petit peu cette saison des cérémonies, que ce soit les Golden Globes et tous les autres trucs qu'il y a pu avoir aux États-Unis, non, on peut pas dire vraiment qu'on tombe de notre chaise en regardant les Oscars. Même si je dois noter quand même 2-3 décisions où j'étais un petit peu perplexe. Par contre, au niveau des pronos, c'est un quasi sans faute. Ah non, j'ai été très 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 bon. Les seuls trucs où j'ai vraiment merdé, c'est en fait quand j'ai essayé d'être un petit peu original, genre dire meilleur film, ce sera Anatomie d'une chute. Oui, bah j'étais con aussi, c'est ma faute. Alors j'ai pris des notes pendant toute la cérémonie, ça va être un petit peu décousu, je vais essayer quand même de suivre le fil de la cérémonie pour vous la faire revivre un petit peu à travers mes mots. Mais si je dois quand même citer 2-3 moments qui ont marqué la cérémonie, j'aimerais quand même revenir sur un détail qui m'a fait plaisir en même temps un peu choqué. Il y a eu tout un moment où Ryan Gosling et Emily Blunt sont venus rendre hommage au travail des cascadeurs. Pour cause, pourquoi ils sont venus tous les deux? Ils seront tous les deux bientôt à l'affiche du film The Fall Guy qui suit un cascadeur. C'était logique. Et ça fait des années que les cascadeurs réclament d'avoir une catégorie pour eux aux Oscars et qu'on leur donne pas. Et du coup, qu'il y ait cet hommage un petit peu, ça faisait à la fois en même temps plaisir et en même temps un petit peu, tiens, prenez votre carotte, vous devez être content maintenant, on a rendu hommage, bonsoir. Dans les mêmes manières, dans les trucs qui m'ont un peu étonné, il y avait toute la séquence l'importance du In Memoriam, le moment où on rend hommage aux personnes qui nous ont quittés malheureusement cette année avec des gens à l'intérieur, ou juste revoir des images, ça m'a rendu triste, hein, revoir des images de Matthew Perry, de Lee Soon Kyun, ça m'a fait quelque chose. Un In Memoriam qui a commencé quand même avec quelque chose d'assez puissant, à savoir un extrait du documentaire Navalny pour rendre hommage à Alexei Navalny qui est mort mystérieusement en prison sous le régime russe. Mais ensuite, le In Memoriam est passé au second plan. Là où d'habitude c'est un montage et il y a de la musique en fond, là l'important c'était d'abord de filmer les chanteurs et les danseurs plus que d'avoir au premier plan les personnes à qui on était en train de rendre hommage. Et j'ai trouvé la construction du In Memoriam cette année un petit peu bizarre. Après, si on veut parler du présentateur tout court, c'était Jimmy Kimmel. C'est pas la première fois qu'il présente les Oscars. Et c'est un exercice dans lequel il est bon. Vraiment. Il est marrant, il a des bonnes vannes. Des vannes qui fonctionnent et des vannes qui fonctionnent moins, hein, comme toute personne qui essaye de faire des blagues. Il a fait les vannes attendues, hein. Il a fait des vannes sur Madame Web. Il a fait des vannes sur Barbie qui est présent partout et qui gagne rien. Il a fait une blague sur le chien d'Anatomie d'une chute qui était dans la salle. Mais si, était dans la salle avec un nœud papillon, il était juste à côté de Swan Arlo et de son badge avec le drapeau de la Palestine. Et j'ai plus la vanne exacte qu'il a fait sur le chien, mais il a dit un truc du style, on n'avait jamais vu quelqu'un aussi bien ravaler son vomi depuis Gérard Depardieu. Wouah! Les vannes qui ont été vraiment nazes, par contre, à côté, il a fait des blagues sur « Oh là là, les films étaient trop longs cette année! Killers of the Flower Moon, c'était quand même super long, non ?» On n'en peut plus de ces vannes-là. On n'en peut plus des vannes sur la durée des films. Si vous n'êtes pas capable de regarder des films de 3 heures, n'y allez pas. N'en parlez pas, en fait, tout simplement. Insupportable, ce genre de blague. Et il a fait des blagues, on aurait dit un mec sur Twitter en mode « Il y avait quand même beaucoup de cul, non, dans Poor Things ?» Une vanne, d'ailleurs, que Emma Stone n'a pas du tout appréciée. On la voit à l'image dire un truc du style « C'est vraiment un connard. » La conclusion de son discours a quand même été la plus belle parce qu'il a parlé de la grève et il a parlé de toutes les petites mains pour lesquelles les gens se sont battus pendant cette grève, des gens qui avaient fait des dons pour eux. Il a fait venir sur scène justement toutes les petites mains qui travaillent pour les Oscars. Ça, c'était le moment où j'ai dit « Waouh, classe, monsieur !» Très très classe. Mais après le discours, il y a eu des prix. Quels sont les prix qui ont été remis? J'ai eu tellement tout juste sur mes pronostics que je vais juste vous dire quand j'ai eu faux. Voilà, là vous serez au courant de là je me suis planté malheureusement, mais je vais pas répéter à chaque fois et j'avais eu juste parce que sinon ça va juste être très lourd. Meilleure actrice dans un second rôle est repartie bien évidemment à Divine Joy Randolph pour le film The Holdovers. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a découvert comment aller présenter les différents prix pour les comédiens et comédiennes en faisant revenir à chaque fois 5 personnes qui ont reçu le prix dans le passé. Et ça a permis des discours très émouvants, notamment il y a Jamie Lee Curtis qui est venu parler de sa très bonne amie Jodie Foster, il y a Lupita Nyong'o qui a parlé de la grand-mère de Divine Joy Randolph, elle a pleuré, c'était très touchant. Et en vrai, le discours qu'a fait Divine Joy Randolph pour avoir vu tous ceux qu'elle a fait pendant toutes les cérémonies par lesquelles elle est passée et où elle a gagné, c'était je pense le plus touchant qu'elle ait jamais fait sur le fait de se battre, d'être soi-même. Elle a pleuré pendant son discours, Paul Giamatti qui était dans la salle a pleuré aussi pendant son discours. Non, c'était très beau et c'est très mérité, je suis très content qu'elle reparte avec l'Oscar. Meilleur film d'animation est reparti bien évidemment aux Garçons et aux Hérons de Hayao Miyazaki. Je sais que des gens espéraient que ce soit Spider-Man Across the Spider-Verse, mais désolé, tonton Miyazaki, il est trop fort, mais il est pas là. Je me rappelle que même aux Golden Globes, ils regardaient ça chez eux en s'en battant un peu les couilles. Ils avaient piscine, ils avaient pas envie d'être présents aux Oscars, et on les comprend. Non, parce que c'est marrant à regarder chez soi les Oscars en buvant une bière, ce que j'ai fait ce soir, mais le faire en étant dans la salle enfermé pendant 4 heures, ça doit être un peu rude. Le meilleur scénario est reparti à celui vers lequel se destinait le cinéma, à savoir Anatomie d'une chute. Le plus beau moment dans la montée de Justine Triet et Arthur Harari sur scène pour récupérer le prix, c'est qu'ils ont mis P.I.M.P. En fond, comme dans le film, et vraiment entendre ça aux Oscars, aller voir monter sur scène sur cette musique, quel bonheur, mais quel bonheur! Justine Triet s'est améliorée en 2 mois à force de traîner aux États-Unis, tu sens qu'elle a toujours le pire accent, mais que elle a vraiment bossé son anglais, et c'était trop cool de l'entendre sur scène, de voir la France représentée. C'était très attendu que le film reparte avec ce prix-là, et en même temps, à qui ils allaient le refiler? À The Holdovers? Le film qui a plagié son scénario? Si vous voulez en savoir plus, attendez la partie question du public, j'en parle plus en détail. Meilleur scénario adapté est reparti à American Fiction de Cod Jefferson, un film que je n'avais pas vu avant toutes ces cérémonies-là et que j'ai rattrapé pile hier soir. C'est vraiment pas mal American Fiction. Si vous avez l'occasion d'y jeter un coup d'œil, il est sorti en catimini complète sur Prime Video. Je comprends pas pourquoi ils ont fait une sortie aussi ridicule pour ce film, mais pourquoi pas? Non, c'est vachement bien. Je m'attendais à une comédie et en fait, je me suis fait surprendre par un vrai drame humain assez bien construit avec des rebondissements à l'intérieur et le rire qui venait justement sublimer certains moments dramatiques. Je vous encourage à découvrir American Fiction, c'est vraiment pas mal. Et en plus, le réalisateur est venu faire un discours sur le fait que faut arrêter de faire des films à 200 millions qui se plantent et faut investir dans des nouveaux talents et faire des films à 10, 15 millions et justement proposer de nouveaux récits, de nouvelles histoires. Un discours qui est plus que nécessaire dans le Hollywood actuel qui s'évertue à faire toujours plus gros, plus fort et au final plus gros plantage. On va faire un tir groupé sur les prix techniques parce que meilleur make-up et coiffure, meilleur production design et meilleur costume sont tous les trois repartis à Poor Things de Yorgos Lanthimos. Alors je pourrais vous dire à quel point c'était mérité parce qu'effectivement les travaux de costume, les travaux de maquillage, les travaux de décor à l'intérieur de Poor Things, c'est vraiment une de ses plus grandes forces. Mais le prix du meilleur costume a été remis par John Cena à poil. Et ça, c'est vraiment l'image que je ne m'attendais pas à voir pendant les Oscars. Ils ont fait toute une blague sur John Cena qui est venu complètement nu sur scène pour remettre le prix et qui après s'est habillé en robe. C'était merveilleux. En plus, il y a eu une vanne pour tous les fans de catch où il a dit « Mais moi, j'ai l'habitude de catcher en short. » Et Jimmy Kimmel lui a répondu « Alors franchement, être à poil, c'est moins honteux que d'être en short. » C'était très drôle. Ça fera partie des moments marquants de cette cérémonie, c'est sûr. Meilleur film étranger, je n'osais y croire. C'était mon pari fou dans les pronostics, mais c'est arrivé, bon Dieu. C'est The Zone of Interest de Jonathan Glazer qui l'a emporté. Voir Jonathan Glazer monter sur scène pour pouvoir parler de ce film, pour pouvoir parler de toute la dimension qu'on peut faire en parallèle avec notre époque. Voir Sandra Hüller dans la salle pleurer en voyant Jonathan Glazer sur scène. Quel bonheur, quelle joie. Et Jonathan Glazer en a profité donc dans son discours pour faire un parallèle à la fois avec les attaques du 7 octobre, mais aussi avec toutes les victimes actuellement présentes dans la bande de Gaza. Non, le discours était vraiment puissant, je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Je suis le fil de la cérémonie, il y a des trucs qui n'ont pas de sens, ils ont commencé avec meilleure actrice dans un second rôle, et là, au milieu, ils ont foutu meilleur acteur dans un second rôle. Bah, il faut mettre des stars de temps en temps quand même, on peut pas toutes les mettre à la fin. Meilleur acteur dans un second rôle, c'est bien évidemment reparti à Robert Downey Jr. dans son rôle de Lévi-Strauss dans Oppenheimer. En plus, il a été présenté par Sam Rockwell, et Sam Rockwell a fait une référence à Tonnerre sous les Tropiques en présentant Robert Downey Jr. Quelle joie, encore une fois. C'est la troisième fois que Robert Downey Jr. a été nommé aux Oscars et c'est la première fois qu'il le remporte. Et je suis content que ce soit pour un tel film qui justement le fait sortir de tous ces films de super-héros qu'il a fait pendant des années et où il propose enfin quelque chose de différent. C'est un discours où il a commencé à en remerciant son enfance horrible. Non, c'était un très joli discours. Tout le monde a applaudi et c'est le moment où on a vu Messi, le chien d'Anatomie d'une chute, applaudir. C'était un des moments les plus bizarres de cette cérémonie. Là aussi, pour ceux qui écoutent la version audio, je vous encourage à trouver l'image de Messi qui applaudit. C'était vraiment bizarre. Meilleur effet visuel, là aussi, c'était le pari que je faisais. Et quelle joie de le voir remporter. Godzilla Minus One. Je sais que j'arrête pas de vous dire à quel point je suis un fan hardcore du lézard géant. Donc vous n'imaginez pas ma joie d'entendre le thème iconique de Godzilla présent pendant les Oscars, de voir l'équipe monter sur scène en ayant tous des figurines à l'effigie de Godzilla. Mais quel bonheur! Et en plus, le réalisateur Takashi Yamazaki a parlé du fait que s'il a eu toute cette vocation pour le cinéma, c'était plus jeune en découvrant Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, et Steven Spielberg était dans la salle. Quel plus beau moment pour lui aussi que de pouvoir exprimer ça. Vraiment, je suis très heureux que ce soit ce film-là qui l'ait remporté et pas un film Marvel, même si c'était Les Gardiens de la Galaxie 3, je suis très heureux que ce soit celui-là, parce que c'est une toute petite équipe qui a dû charbonner avec des salaires pas aussi hauts que ce qu'on peut avoir aux États-Unis. Non, vraiment, trop bien, j'adore Godzilla, je suis le plus heureux des hommes. Meilleur montage, alors c'est reparti à Oppenheimer, et du coup, bah, là j'ai rien noté parce que j'étais encore juste trop content de Godzilla Minus One, donc je suivais même plus les Oscars, j'étais juste en mode putain, mais Godzilla a remporté un Oscar! Donc meilleur montage pour Oppenheimer, oui, tout à fait, ça allait pas être Laurence Sénécal pour Anatomie d'une chute, personne n'y croyait. Et juste après, il y a eu meilleur documentaire, et j'avais pas fait de prono sur meilleur documentaire parce que bah, à l'époque j'avais vu que Les Filles d'Olpha, donc j'aurais par défaut voté Les Filles d'Olpha, mais entre temps, j'ai rattrapé 20 jours à Mariupol. Et bah c'est lui qui a gagné le prix, et je suis pas étonné. C'est un film qui est purement terrifiant, 20 jours à Mariupol, je vous encourage à le découvrir si vous en avez l'occasion, parce que c'est à la fois un film qui traite du quotidien pendant la guerre, de comment justement on essaye de faire survivre le quotidien en temps particulièrement trouble, et qui en plus arrive à montrer comment la réalité est pervertie par la manipulation des médias en Russie. Et le réalisateur est monté sur scène pour faire tout un discours sur le fait que il fait partie des seules personnes dans la salle qui auraient préféré ne pas gagner de prix et qu'il aurait tout fait pour échanger ce prix contre la survie et la non-invasion de la Russie en Ukraine. Un discours qui était un des plus puissants de cette cérémonie. Il a terminé en disant « Mais on change pas le passé, alors tous ensemble, sachant que vous avez tous beaucoup d'argent dans la salle, n'hésitez pas à essayer de changer le futur. » Non, c'était une dinguerie. Sans déconner, c'était une dinguerie. Meilleure photographie a été remis à von Oitema pour le film Oppenheimer, et encore une fois, j'ai déjà parlé de ce directeur photo dans l'émission, parce que c'est un putain de viking. S'il travaille avec Christopher Nolan, c'est seulement parce que Christopher Nolan voulait filmer des images en IMAX, mais il trouvait pas de personne assez forte pour porter une caméra IMAX qui est beaucoup trop lourde directement sur ses épaules, et donc il est allé chercher ce viking en lui disant vas-y porte la grosse caméra, et ça donne les images complètement fous en caméra portée qu'on a dans Oppenheimer. Nolan, ce tortionnaire. Et en même temps bah ça a permis de voir Hoyt von Oitema sur scène avec son costard et ses baskets. C'était un plaisir. Alors j'avais pas fait de prono là-dessus parce qu'après il y a eu meilleur court-métrage et je les avais pas vus à part le Wes Anderson. Je me suis dit putain, je vais quand même pas juste voter Wes Anderson parce que c'est le seul que j'ai vu, et c'est sûrement ce que l'Académie a fait parce que bah c'est sûrement le seul qu'ils ont vu aussi. Ils ont voté Wes Anderson qui gagne donc l'Oscar pour The Wonderful Story of Henry Sugar, et c'est le premier Oscar remporté par Wes Anderson. C'est la partie que je trouve le plus ouf. La première fois que Wes Anderson remporte un Oscar, c'est pour un court-métrage. Je trouve ça dingue qu'il en ait jamais gagné avant et que ce soit pour ça qu'il le remporte son premier. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Meilleur son, ça a été ma première erreur de pronostic. Parce que je me suis dit, bah voilà, dans ces prix techniques-là, c'est normalement Oppenheimer qui remporte tout. Et non, je n'osais l'espérer, mais c'est The Zone of Interest de Jonathan Glazer qui a remporté le prix. C'est ma plus grosse surprise de la soirée. Et en même temps, quelle folie, quelle joie de voir le film gagner dans cette catégorie. Parce que quiconque a vu The Zone of Interest sait que un des points les plus importants du film, c'est le son. Que à travers le son, Jonathan Glazer raconte un deuxième récit en parallèle de celui que nous montre l'image. C'est comme si l'image et le son s'affrontaient dans ce film et venaient raconter deux histoires différentes. Et le son étant donc aussi bien utilisé à l'intérieur de The Zone of Interest, que ce soit ce film-là qui remporte le prix, je suis plus que ravi. Voilà, deux Oscars pour The Zone of Interest, il n'en aura pas plus, mais c'est déjà tellement bien qu'il en ait remporté, j'avais peur qu'il se fasse snobber. Meilleur BO est reparti bien évidemment à Ludwig Göransson pour la BO d'Oppenheimer, il a tout remporté de toute manière à chaque fois qu'il a été nommé. C'est son second Oscar après en avoir remporté un pour Black Panther. Oui, alors j'avais oublié qu'il avait fait la musique de Black Panther, et en même temps j'ai oublié la musique de Black Panther. À la différence de la musique d'Oppenheimer, qui est une musique que je me réécoute assez souvent. Je sais pas si vous écoutez de la BO de film, ça m'arrive de le faire, notamment il y a une radio super en ligne qui s'appelle lagrandeévasion.fr si jamais ça vous intéresse, pour écouter de la musique de film, et de temps en temps il passe de la musique d'Oppenheimer, et à chaque fois c'est des frissons qui reviennent parce que les images reviennent instantanément sur cette musique, et c'est vraiment très 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 réussi. Le seul truc que j'ai pas aimé, c'est dans le discours de Ludwig Göransson, il a dit un truc du style « Merci papa et maman de m'avoir donné une guitare et pas des jeux vidéo quand j'étais petit. » Oui, parce que c'est vrai qu'on peut pas grandir avec des jeux vidéo et faire de la musique derrière. J'ai trouvé que c'était vraiment une réplique de con. On reste dans la thématique musicale. Meilleure chanson a été remportée, et c'était encore une fois une évidence, par « What Was I Made For » de Billie Eilish pour le film Barbie. Vu que c'est la tradition, la chanson a été performée en live dans une version orchestrale qui était magnifique. J'espère qu'ils vont la mettre en ligne, que vous pourrez la revoir parce que c'était vraiment beaucoup trop beau. Et c'est le second Oscar remporté par Billie Eilish à seulement 23 ans. Oui, à 23 ans, elle a déjà deux Oscars. Le précédent, c'était pour son morceau No Time to Die sur la BO du dernier James Bond. Mais si on parle des lives musicaux qu'il y a eu pendant cette cérémonie, le paquet, il a pas été mis sur Billie Eilish. Non, le vrai paquet, il a été mis sur la performance de I'm Just Ken avec Ryan Gosling qui a chanté, et il a pas juste que chanté. Il a ramené avec lui tous les autres comédiens qui jouaient Ken. Il a fait un hommage à Marilyn Monroe dans la scénographie. Il y a Slash qui est venu faire un solo de guitare. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens dépensés pour que I'm Just Ken se fasse en live. Tout ça pour rien gagner. Beaucoup de temps dépensé pour pas grand chose. On dirait vraiment le symbole de Barbie. Voilà, ça va énerver les fans de Barbie, ça encore. Je vais me faire des copains. On en arrive aux 4 derniers prix, et c'est là où majoritairement j'ai fait des erreurs. Puisque meilleur acteur, j'avais dit Paul Giamatti. C'était un peu un pari fou de ma part, mais c'est reparti à l'évidence qui était Cillian Murphy pour Oppenheimer. Le truc, c'est que Paul Giamatti, il avait gagné ailleurs pour The Holdovers. Très souvent, il y avait Paul Giamatti et Devine Joy Randolph qui remportaient les prix ensemble. Je me suis dit, ben, possiblement que ça va être le cas ici. Mais non, la vague Oppenheimer a été beaucoup trop forte. Et en même temps, bah, je vais pas faire le rageux parce que la performance de Cillian Murphy dans Oppenheimer, elle est dingue. Le mec porte le film à bout de bras, il est littéralement sur l'affiche, c'est son nom, le film. Non, c'était évident que Cillian Murphy allait remporter le truc. J'ai voulu tenter, je me suis trompé. J'aimerais juste citer une phrase qu'il a dit dans son discours que je trouve plutôt belle. Il a terminé son discours en disant « On vit dans le monde de la bombe atomique, je dédie ce prix à ceux qui œuvrent pour la paix. » Des mots plus que nécessaires en ces temps troublés. Meilleur réal, ça a été, évidemment, Christopher Nolan pour Oppenheimer. Il y a pas une cérémonie où il a pas remporté ce prix. Et je trouve que le symbole a été extrêmement puissant dans le fait que c'est Steven Spielberg qui est venu remettre l'Oscar, et donc Spielberg qui donne un Oscar à Christopher Nolan. Ouais, je trouve le symbole dans l'histoire du cinéma américain vraiment puissant. Et en même temps, qui aurait pu croire à une autre personne récompensée? C'est quand même une des mises en image les plus dingues de cette année. Certains diront une des mises en image les plus démonstratives de l'année. C'est sûr que c'est pas l'image de Zone of Interest. Mais je suis quand même très content de voir Christopher Nolan remporter ce prix. Il va pouvoir maintenant aller se reposer parce qu'il a pas chômé quand même le bonhomme. Il a fait toutes les cérémonies jusqu'à venir au César. Il y en a un autre d'ailleurs qui va pouvoir aller se reposer, c'est Martin Scorsese. Le pauvre, il a été partout, il a jamais rien remporté. Vraiment, ça me rend très très triste pour Papy Scorsese. Et les deux dernier prix, je me suis planté partout, parce que meilleure actrice, j'ai cru en Lily Gladstone, et c'est Emma Stone qui l'a remporté pour Poor Things. J'ai cru pendant un instant à un symbole puissant. J'ai cru que Lily Gladstone allait recevoir le prix pour sa performance qui est de grande qualité, mais qui aussi allait marquer toute son époque de voir Lily Gladstone sur scène avec cet Oscar. Et non, ils ont préféré remettre le prix à Emma Stone. C'est son second Oscar en plus, elle en avait déjà eu un pour La La Land. Elle pourrait quand même partager avec les copines, ce qu'elle a essayé de faire dans son discours. Elle a dit « Je partage ça avec tous les gens dans la salle. » Mais bon, c'est plus facile facile à dire qu'à faire. Après, les super dans Poor Things, c'est un film avec lequel j'ai plusieurs problèmes, mais la performance d'Emma Stone n'en est pas un. Elle porte le film à bout de bras, elle aussi. Elle méritait le prix. Mais voilà, je rêvais du symbole et je ne l'ai pas eu. Et enfin, meilleur film, bah voilà, j'ai voulu tenter le diable, j'ai voulu me dire qu'on allait réitérer l'exploit qui s'était produit avec Parasite à l'époque, que ce soit pas un film américain, que ce soit Anatomie d'une chute qui remporte le prix. C'était évident, ça a été Oppenheimer. D'ailleurs, c'est Al Pacino qui est venu remettre le prix et il a bombardé le truc sans même annoncer des nommés ou quoi. Il l'a balancé à l'arrache, il n'y avait aucun suspense. Al Pacino, il a l'air fatigué. Et je dis pas ça en termes de critique, je dis ça que quand tu le vois sur scène, il a l'air fatigué. Après, il a remis le prix à Oppenheimer, qui était l'évidence. Je trouve ça assez évident que la saison des cérémonies se soit terminée avec le triomphe d'Oppenheimer. Parce que à part Christopher Nolan, qui peut ramener autant de gens en salle avec un film de cette durée, avec un film avec un tel sujet aussi verbeux? Qui aurait pu croire que, à part Christopher Nolan, quelqu'un pourrait faire de ce film un véritable succès populaire? Et je trouve ça génial que ça en soit un, parce que c'est normalement le genre de film qu'on regarde avec un peu de mépris. Ce film-là qui arrache tout en salle, qui est un des plus gros succès de l'année, c'est fantastique. Et en plus, le fait que ce soit ce film-là qui remporte le prix brise un peu une règle semi-consciente des Oscars, qui est que le film qui gagne meilleur film est souvent un film très oubliable. J'ai un meilleur film, ça a été par exemple il y a quelques années Coda. Qui se souvient de Coda? Les Français, soyez un peu chauvins, on préfère la famille Bélier à Coda, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce qui fait donc que sur mes 19 pronostics, j'ai eu 15 sur 19. Franchement, on est plus que bien en termes de pronos. En vrai, les endroits où j'ai perdu, c'est que les endroits où j'ai voulu tenter la surprise, parce que, comme je le disais en introduction, ça a été une cérémonie très attendue. Il n'y a pas eu particulièrement de moment choc où tout le monde se dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Mon seul vrai moment choc, ça a été meilleur son pour le Jonathan Glazer, pour The Zone of Interest. Ça a été vraiment le prix auquel je m'attendais pas. Et aussi meilleur FX pour Godzilla, mais j'en rêvais secrètement. J'en faisais des rêves la nuit de voir le lézard géant aux Oscars. Pas une mauvaise cérémonie en soi, des prix que je trouve plus que mérités. Une cérémonie, par contre, qui pour certains petits moments marquera l'histoire, mais qui dans sa globalité ne sera pas particulièrement game changer. Mais au moins, on a passé une bonne soirée qui s'est terminée pas trop tard. Pour la France, les Oscars, ça s'est terminé quoi, à 3h du mat? J'ai connu une époque où les Oscars se terminaient à 6h, hein, les Français, vous avez eu beaucoup de chance. C'est toutes les personnes qui bossent dans le cinéma à Paris qui vont être trop contentes de pas être complètement déphasées demain matin au taf. J'ai une pensée émue pour vous. Et moi, bah j'en ai fini avec les Oscars. J'en ai fini avec les cérémonies de prix. Enfin, il était temps qu'on passe à autre chose. Et moi ici, je vous enregistre ça à 23h30. Maintenant, il faut que j'aille monter le tout pour que vous puissiez le voir dès 7h du matin. J'espère que vous allez bien où vous êtes. Et sur ce, on avance. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler d'une autre cérémonie de prix qui s'appelle les Razzie Awards. Mais nous, de notre côté, on va parler d'une annonce qui a fait pas mal de bruit dans la sphère des passionnés de cinéma d'horreur français. Est-ce que vous connaissez les films de Mathieu Thury? Mathieu Thury, réalisateur français, qui en a réalisé 3, Hostile en 2018, Méandre en 2021 et Gueule Noire en 2023. Le cinéma de Mathieu Thury, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un cinéma que j'aime à moitié. Je vais m'expliquer. J'aime beaucoup l'imagerie que développe Mathieu Thury dans ses films. J'aime beaucoup les designs, j'aime la réalisation, j'aime la mise en scène. Je trouve que là-dedans, le travail de la lumière aussi, je trouve qu'il est très fort là-dedans. J'ai plus de problèmes, par contre, avec l'écriture. Je reste toujours un peu en dehors parce que je trouve les scénars un peu faiblards, que ce soit à niveau dialogue, que ce soit à niveau développement de certains personnages. Voilà, l'écriture me bloque, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait avec sa caméra. Son dernier film, Gueule Noire, ça s'en est l'exemple typique. Le concept est absolument dingue, mais je trouve que, en termes d'écriture, ça délivre pas assez, et notamment la fin, le dernier acte, je trouve que ça se termine un petit peu en queue de boudin. Mais tu regardes Gueule Noire, il y a quand même un design de créature qui est hallucinant. Je veux dire, dans une époque où on est obligé tout le temps de mettre en avant de la CGI dès qu'on veut faire des bestioles, là, assumer dans un film d'horreur une certaine marionnette avec un côté un peu goofy, j'adore, j'aime beaucoup ça. Et retrouver en plus ce genre de marionnette qui fait peur, comme dans les années 80, dans un cinéma d'horreur français, ouais, voilà, ça me séduit dans Gueule Noire. Moins l'écriture, mais ça, en tout cas, oui. Et Mathieu Thury, au-delà de faire des films d'horreur, c'est un type qui a toujours eu un lien étroit avec le monde du jeu vidéo. Alors, ça, vous le sauriez si vous suiviez ce putain de génie qui est Hideo Kojima, qui passe son temps à RT tout ce que fait Mathieu Thury. J'aime trop, je trouve ça trop mignon. Mais on savait déjà que Mathieu Thury bossait sur deux projets en lien avec le jeu vidéo. Tout d'abord, un projet de série télé sur le jeu vidéo A Plague Tale, jeu vidéo que je n'ai pas fait, tout le monde m'a dit que c'était super, qui a été développé par un studio français. Ça se déroule en France pendant l'époque de la peste noire, il y a des pouvoirs où ils contrôlent des rats pendant la guerre de 100 ans. Non, ça a l'air vraiment chambé, j'ai vu plusieurs vidéos qui m'intéressaient beaucoup autour du jeu. Et donc Mathieu Thury développe une série là-dessus, mais il développe pas que ça. En effet, il a annoncé qu'il avait un autre projet en rapport avec le monde du jeu vidéo, mais cette fois-ci pas une série, un film. En effet, Mathieu Thury travaille actuellement pour réaliser une adaptation du jeu vidéo Watch Dogs au cinéma. Oui, le jeu d'Ubisoft Montréal-Toronto va avoir le droit à une adaptation en film et l'annonce est assez folle. Déjà, juste sur les personnes qui tournent autour du film, notamment la scénariste, c'est Christy Leblanc. Christy Leblanc qui avait écrit Oxygène d'Alexandre Aja qui était sorti sur Netflix. Oxygène que j'avais beaucoup aimé, qui était un huis clos avec Mélanie Laurent enfermée dans l'espace. Si vous l'avez raté, Oxygène, c'était vraiment bien foutu. Sûrement un des meilleurs films d'Alexandre Aja depuis très longtemps. Et on apprend que dans Watch Dogs, eh ben, le premier rôle sera tenu par Sophie Wilde. Sophie Wilde qui s'était fait connaître en interprétant le premier rôle du film d'horreur Talk to Me, sorti l'année dernière. On apprend aussi dans cette news que le film sera produit par des gens qui viennent de chez New Regency. New Regency qui est un studio qui a produit entre autres récemment le film The Creator, le film d'horreur Barbarian, le film The Northman. Donc des gens qui ont plutôt un savoir-faire dans la production, je trouve intéressant, et je trouve d'autant plus intéressant de les voir se lier à Ubisoft Film pour essayer de produire un truc. Alors qu'est-ce qu'on sait du long-métrage Watch Dogs ? Eh bien pas grand-chose, pour dire même tout à fait honnêtement, on n'en sait rien du tout. Les news se comptent au compte-gouttes, c'est Deadline qui a sorti l'info de manière assez rapide. Je me pose quand même 2-3 questions sur la complexité d'adapter un tel jeu qui est justement Watch Dogs. Parce que Watch Dogs, c'est un open world. Et qui dit open world dit que en tant que joueur, tu peux aller un peu n'importe où, tu peux faire un peu ce que tu veux. Là, l'idée de faire ça en film, ça veut dire forcément de resserrer le point de vue sur un personnage, donc qui va être probablement Sophie Wilde dont je vous parlais. Comment est-ce que tu fais ressentir la dimension de l'open world à l'intérieur d'un film qui va suivre une seule personne ? Watch Dogs était vendu sur cette promesse-là, qui délivrait pas totalement, mais cette promesse de t'as ton téléphone, tu peux hacker tout et n'importe quoi, avoir une incidence sur le monde. Comment le faire ressentir ça en film ? Je me questionne, je me demande comment le scénario va le faire. Pour vous donner une anecdote toute personnelle, j'avais été approché il y a quelques années pour écrire une série audio autour de l'univers Watch Dogs à l'époque de Watch Dogs Légion, et j'avais écrit justement un truc en dizaines d'épisodes, et chacun suivait un personnage différent pour essayer de faire ressentir cette dimension open world, pas justement rester sur une seule personne. Bon, le projet s'est pas fait, mais faudrait que je ressorte quand même, il y avait un des personnages que j'aimais beaucoup à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, je suis très intrigué de voir pour la première fois Mathieu Turie se saisir d'un scénario qu'il n'a pas écrit et simplement se concentrer sur sa mise en scène, sur son travail de l'image, comment il va réussir à construire ça. Ça m'intéresse énormément. Donc on envoie énormément de force à Mathieu Turie parce qu'on sait que c'est toujours un petit peu compliqué quand des cinéastes de genre se barrent dans des prods internationales. Il y a toujours un petit moment où ils sont couillés, on espère que ça ne lui arrivera pas. Et encore une fois, oui, très hâte de voir ça. Extrêmement hâte de voir ça. On avance.
Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Hey, vous avez une question sur l'actualité ?» Et si jamais j'ai quelque chose à répondre à vos questions, je la garde et elle passe dans l'émission. Allez me suivre sur Instagram, ce sera plus simple, et checker mes stories quand elles sortent. Et aujourd'hui, la question du public nous vient de Fran VDSS qui demande « Le scénario de The Holdovers serait un plagiat. Qu'en est-il vraiment ?» Ouais, j'ai vu passer ça, il faut qu'on en parle. Normalement, vous voyez ce que c'est, The Holdovers, qui s'appelle Winter Break en France, j'en ai parlé dans l'émission, je vous ai dit tout le bien que j'en pensais, et est sorti un gros article qui explique que, visiblement, le scénario de ce film serait plagié sur un autre. Et alors, on va déjà faire taire une rumeur que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux en mode « Oh, c'est bizarre, ça sort pile avant la cérémonie des Oscars, ce serait pas pour gratter un peu du buzz ?» Non, pas du tout. Ce truc-là remonte en interne depuis début janvier. Le 12 janvier exactement, le scénariste britannique Simon Stephenson a envoyé une lettre à la Writers Guild of America, dont je vous parlais beaucoup pendant la grève, hein, c'est le syndicat des scénaristes, pour leur dire « Eh, les syndiqués, je crois que je me suis fait niquer. » Simon Stephenson, c'est pas n'importe qui, c'est pas un petit scénariste en recherche de fame. C'est un mec qui est déjà inscrit dans le système parce qu'il avait notamment écrit l'histoire de Luca de Pixar et il avait collaboré aussi à l'écriture de ce putain de chef-d'œuvre qu'est Paddington 2. C'est un type qui est déjà dans le circuit. Bon, il n'est pas outre mesure, il n'est pas ultra connu, mais on lui doit notamment le scénario de La vie extraordinaire de Louis Vane qui était sorti directement sur Prime Video, et un bouquin qu'il a écrit normalement va être adapté par Edgar Wright, ça va être son prochain film. Donc le mec il bosse, il fait ses trucs, et dans le mail qu'il a envoyé au syndicat, il a écrit « Les preuves que le scénario de The Holdovers a été plagié ligne par ligne sur celui de Frisco sont accablantes. Quiconque en regarde même le plus petit échantillon en constatera le plagiat éhonté. » Si vous savez pas ce que c'est Frisco, Frisco c'est un film écrit par Simon Stephenson, un film qui est pas encore sorti, hein, qui est à l'étape de scénario, et qui raconte l'histoire d'un prof vieillissant qui se retrouve bloqué à surveiller pendant les vacances un gamin de 15 ans. C'est exactement le scénario de The Holdovers. Je vous dis que le film est pas tourné, le scénario est pas inconnu non plus. Le scénario de Simon Stephenson, il est disponible en ligne depuis 2013, parce qu'il s'est retrouvé en fait sur la blacklist qui est Pour l'expliquer très simplement, un répertoire de scénarios à Hollywood où se retrouvent les scénarios les plus chauds du moment et où on classe en se disant « celui-là, il faut vraiment qu'il soit adapté parce qu'il est complètement dingue ». La blacklist, elle est accessible à énormément de gens de la profession qui vont lire les scénarios qui se trouvent dessus, les scénarios très chauds, et se positionner pour dire « ok, ça m'intéresse, je vais l'adapter ». Donc c'est pas un type qui se pointe en disant « bonjour, j'ai un scénario dans ma tête ou juste sur mon ordinateur et on me l'a copié ». Non, c'est pas ça. Le scénario de Frisco, c'est un scénario qui s'est retrouvé classé genre 3e des scénarios les plus hype qui étaient sur la blacklist à une époque, c'est vous dire. Mais on pourrait arguer que Alexander Payne, le réalisateur de The Elderverse, n'a pas nécessairement lu le scénario qui se trouvait sur la blacklist. Le problème, c'est qu'on a des preuves. Et même des échanges de mails. Variety a sorti les échanges de mails avec des producteurs et des agences qui montrent que Alexander Payne a eu le scénario de Frisco dans ses mains en 2013, mais aussi en 2019. 2019, juste avant qu'il se mette à écrire The Holdovers. Il y a même un mail en 2013 provenant de l'agence UTA, grosse agence américaine, qui dit clairement à Simon Stephenson, je cite, « J'ai parlé à l'agent d'Alexander Payne, il dit qu'Alexander a lu ton scénario, mais n'est pas intéressé ni de le produire, ni de le réaliser. » Ça, c'est 2013, on peut se dire, c'est oublié, c'était un acte isolé, mais non, c'est pas un mail isolé. Parce qu'il y a un autre mail en 2019 qui dit que Alexander Payne a lu le scénario, mais que ça l'intéresse pas. Et juste après ce mail, il a lancé l'écriture avec son co-scénariste de The Holdovers. Voilà, voilà, voilà. Alors, ça fait des mois que Alexander Payne explique qu'il a eu l'idée de faire ce scénario en voyant un film français des années 30, que c'est ça qui l'avait inspiré. Le truc, c'est que Variety, ils ont pas fait les choses à moitié, ils ont dévoilé un document de 33 pages que je vous ai mis en description. Un document qui fait la comparaison entre des bouts de scénario de The Holdovers et des bouts de scénario de Frisco. Du coup, je suis allé lire le truc. Et ouais... Non, il y a un truc bizarre, il y a un truc bizarre. C'est pas des phrases copiées-collées non plus, mais tu sens qu'il y a des points de scénario et même des scènes, des moments où bah, c'est un peu la même chose qui se raconte à l'intérieur, c'est la même évolution de personnage. Et quand tu sais que le gars a lu le scénar juste avant de bosser sur The Holdovers, c'est étrange. Et on en revient à ce que je disais au début, le fait que ça a explosé au grand public juste avant les Oscars, alors que ça se déroulait en interne depuis début janvier. Bah oui, mais si ça a explosé, c'est parce que le syndicat, la Writers Guild of America... Oh bah ils l'ont un peu fait à l'envers à Simon Stephenson. Parce que fin février, la Writers Guild of America, qui eux aussi font une cérémonie, et bah ils ont annoncé qui y nommait dans les catégories meilleur scénario, etc. Et la Writers Guild of America a nommé en meilleur scénario original The Holdovers d'Alexander Payne. Alors que ça fait deux mois qu'il y a des mails en interne qui expliquent que le scénario a possiblement été plagié. C'est pour ça que Simon Stephenson, il a tout fait sortir en public, qu'il a tout balancé à Variety. Parce qu'il en avait plein le cul, ça fait deux mois qu'il alerte et les mecs lui ont fait « Ouais, ouais, alors vu, on va plutôt lui filer des prix. » Et c'est compliqué de dire qui a raison, qui a tort, même moi en lisant des bouts comme ça. Je suis pas juge, je peux pas décider. Je pense que ça va à la fin se terminer au tribunal et qu'il y aura une vraie décision et on aura des preuves matérielles. Plus que le plagiat, en fait. Moi, je trouve ça ouf que la Writers Guild of America, ça fait deux mois qu'on les alerte en interne sur le fait que, attention, ce scénario quand même, bizarre, quand même bizarre, et qu'ils ont dit, ok, rien à taper. Il y a un truc de connivence bizarre. Il y a un vrai truc de connivence bizarre. À chacun de se faire son avis, j'ai pas d'avis définitif et vous avez toutes les sources de l'émission en description. Voilà. En attendant, on avance.
Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle de film. Non, c'est vous. Et pour parler d'un film, il suffit d'envoyer... C'était très agressif, dis donc. Il suffit d'envoyer un mail avec un audio d'environ 3 minutes à l'adresse lepirepodcastciné@gmail.com. J'écouterai tous vos audios en fin de semaine et je sélectionnerai un audio qui passera dans l'émission. Oui, un auditeur ou une auditrice viendra nous parler d'un film. Et aujourd'hui, alors, est-ce que c'est vraiment un film, ce truc ? Ça pose deux, trois questions même dans la manière dont ça a été produit. On va parler d'Imaginary. Something that hurts. Alice ? La demande justifie-t-elle l'offre ? C'est une question que je me suis posée en regardant Imaginary. Parce qu'on le sait, de la part du public, il y a une vraie demande en matière de films d'horreur en salle. Majoritairement, le public se déplace beaucoup pour aller voir du cinéma horrifique. Parfois ça se plante, hein, ça arrive à tout le monde, mais il y a une vraie volonté que de voir ces films-là sur grand écran. Et le studio qui s'était fait spécialiste de cette question-là, un peu folle et des concepts forts, c'était, pendant plusieurs années... Blumhouse. Si vous regardez du cinéma d'horreur, vous avez forcément croisé le logo Blumhouse, mais Blumhouse avait une manière de fonctionner pendant des années qui était bien particulière. On tourne plein de films, plein de trucs à petit budget, et on sort en salle que les films où on se dit « Ah, là, il y a une proposition forte et ça peut être intéressant ». C'est comme ça qu'on a eu de la part de Blumhouse des films comme Split, comme Get Out, comme Insidious, comme Sinister, comme Happy Birthday, comme la saga Halloween, comme Unfriended. Là, je vous cite que des trucs que j'ai plutôt pas mal aimés. Il y a The Purge aussi, merde, je m'étais mis The Purge dans ma liste. Oui, aussi The Purge. Et en fait, depuis quelques années, suite à une comme je disais, une grosse demande et une économie hollywoodienne assez complexe pour tenir, eh ben ils ont commencé à être un peu moins regardants sur les trucs qui sortent en salle. Ils ont dit « Ok, on va ouvrir un peu plus les vannes et sortir davantage de trucs, même des trucs pas tout à fait bien. » J'ai calculé, en 3 ans, j'ai vu 14 films Blumhouse, et sur les 14, j'en ai apprécié 3. Et encore dans les 3, je compte Megan. Et Megan, je trouve ça quand même assez moyen. Rien qu'au cours des derniers mois, on a eu The Exorcist Believer, qui était une purge, on a eu Five Nights at Freddy's, qui était une purge, on a eu Night Swim, qui était à peine un film, et là, on a Imaginary. Et j'y allais vraiment avec de l'espoir, et... je pense pas qu'on pouvait tomber aussi bas. Le pitch est simple, c'est une nana qui retourne vivre dans sa maison d'enfance avec son nouveau mec et les deux enfants de son nouveau mec, à savoir une ado rebelle qui peut pas la blairer et une gamine en mal d'amis. Et la gamine en question, elle va trouver dans la maison un ours en peluche qui avait été oublié là il y a des années, et elle va dire « Ok, c'est mon nouvel ami imaginaire ». Un ami imaginaire qui va s'avérer être particulièrement malveillant. Voilà, vous avez l'idée. C'est quoi le problème avec ce film d'horreur ? Bah déjà, c'est que c'est à peine un film d'horreur. On est dans la case PG-13 avec de l'horreur la plus aseptisée possible, avec zéro goutte de sang, et même niveau jumpscare et effet de terreur, bah c'est quand même d'une platitude assez crasse. C'est bien simple, le film dure 1h45, ce qui est déjà atrocement long, mais encore plus long quand tu te rends compte qu'au bout d'une heure de film, on est encore en train de faire de l'exposition. Parce que toute l'idée, c'est de dire « Ouais, regardez, on vous fait peur avec un nounours maléfique, attention, parfois, il bouge la tête !» Mais c'est tout, en fait, c'est un nounours qui fait rien à part être un nounours. Et en fait, j'ai pas 6 ans, j'ai pas peur des nounours. Et donc, vu qu'il te montre rien avec cet ours en question, à part le fait que, visiblement, il serait malveillant, mais ben, en fait, on le voit pas être malveillant, et ben, pendant 1h20, on a des personnages qui te parlent de choses, qui te disent « Attention, il y a une malédiction, faut s'en méfier, attention, attention, attention !» Mais ils ne le montrent jamais. C'est des personnes qui parlent et qui ne se mettent jamais en action. Et ça, pour un film, c'est quand même assez dommage. Et surtout, et c'est mon deuxième problème, le film est mensonger, parce que dans la première scène, on me voit un truc accrocheur de dingue. C'est une idée de monde parallèle avec des amis imaginaires malfaisants, avec des designs flippants qui peuvent prendre possession des humains et te poursuivre dans la vraie vie. Je suis chaud de fou quand je vois ça. Mais du coup, sur 1h45, t'attends 1h20 qu'enfin on te montre cet univers-là, et quand il se pointe, bah c'est 3 fonds verts moches. C'est tout. Puis en plus, on te l'a vendu en disant « Regardez, c'est un univers où l'imaginaire devient réel, où les choses qu'on imagine se produisent à l'intérieur. » Donc, tu ouvres la porte de l'imaginaire, il peut se produire 1000 choses à l'intérieur. Et à part le monstre principal, le seul truc imaginaire qui se pointe dans cet univers, c'est un caniche nain. Ouais, c'est pas une blague, c'est vraiment ça. On m'a vendu un truc qui n'existe pas. Et pour me faire patienter, on m'a développé des sous-storylines avec des personnages fonctions clichés qui ne servent à rien et qui popent une scène et disparaissent celle d'après. Et surtout, après la platitude dont je vous parle et le mensonge, bah c'est un film qui pratique aussi le recyclage. Parce que Imaginary, c'est quand même un peu beaucoup repompé sur Insidious. Il y a une présence maléfique dans une maison, il y a un personnage de vieille qui se pointe en disant à l'héroïne « Je t'ai connu dans ton enfance, j'ai des bails si tu veux ». Tout le dernier acte, c'est un monde parallèle où un enfant s'est perdu et où il va falloir aller le retrouver. C'est Insidious 1. La différence, c'est que Insidious produit son exposition par la mise en scène. C'est-à-dire qu'on a peur, et c'est à travers cette peur qu'on dévoile les règles de l'univers qui est en train de se jouer devant nos yeux. Ici, on oublie le travail de mise en scène, on oublie la peur. C'est juste des personnages qui racontent des trucs qu'on ne verra jamais se produire. Et de temps en temps, on te fait « Attention, regarde dans le coin de la pièce, il y a une peluche de nounours. J'en ai rien à foutre, c'est une peluche !» Et je suis désolé, je vais être vulgaire, c'est ma marque de fabrique. Un film d'horreur qui ne cherche pas à faire peur, qui ment sur ses intentions et qui recycle des trucs de succès passé, j'appelle ça un gros film de merde. J'en reviens donc à ma question du début. Est-ce que la demande justifie l'offre ? Est-ce qu'on mérite pas un meilleur cinéma horrifique? Ce qui était avant le rêve que proposait Blumhouse. Et il peut exister encore aujourd'hui, ce cinéma d'horreur-là. Suffit de voir le succès qu'a eu l'année dernière Talk To Me, marketé par un truc comme Blumhouse, c'était un succès international encore plus grand. Même si tu décides de reprendre des licences connues dans les suites de suites, l'année dernière, j'ai pris pas mal de plaisir devant Evil Dead Rise. Il est possible de faire du cinéma d'horreur populaire de qualité. C'est ce que faisait à la base Blumhouse. Et c'est ce qu'ils ont arrêté de faire. Le truc, c'est que je m'en plains là, mais si tu réfléchis de leur part d'un point de vue purement économique, bah, ils auraient tort d'arrêter. Parce que Megan, ça a cartonné. Parce que Five Nights at Freddy's, ça a cartonné. Parce que Night Swim, ça a été un film rentable. Parce que Imaginary, en un seul week-end, a déjà dépassé son budget. Économiquement, ils ont raison. Cinématographiquement, c'est un désastre. Et vu que je suis aigri et vieux, bah, je vais terminer avec une citation de Coluche. Coluche qui disait « Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça se vende pas. » Maybe we shouldn't play together anymore, Chauncey. Maybe we shouldn't be friends. No, 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 no. Yeah! C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. Je sais pas du tout ce que l'émission vaut parce que bah, j'ai tourné que la moitié. Donc je n'ai aucune idée de si à l'intérieur c'était sympa, si ça marchait bien, toute la partie Oscar et tout. Vous me direz dans les commentaires. Je dois être très fatigué au moment où cette émission sort parce qu'en plus avec le changement d'horaire, ça veut dire que 7h du matin actuellement, c'est 2h du matin au Québec. Quelle aventure, quel bonheur. Bref, on se retrouve mercredi pour une nouvelle émission. En attendant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore...
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.